OK. Ouf! C'est stressant un petit peu, hein? Bien, bonjour, moi, mon nom, c'est Roxane Grenier, fille de Guy et Nathalie Grenier, sœur de Gabriel. Dès mon jeune âge, mes parents y allaient à l'église, puis je savais qui était Dieu puis Jésus, mais juste d'une vision d'enfant. À un moment donné, mes parents sont tombés malades. Ça commence déjà? Je broille déjà! Puis ont arrêté de venir à l'église. Mon oncle et ma tante, Daniel et Linda, qui m'ont accueilli avec bras grand ouvert, qui m'ont appris plein de valeurs. Je leur en suis très reconnaissante, puis je remercie le Seigneur de les avoir mis sur le chemin à moi et mes parents. Des fois, on ne prend pas toujours des bonnes décisions. Puis, malgré tout ce que j'avais appris de Dieu, je me suis détournée pour aller vivre avec un non-croyant. Je pensais trouver l'amour, mais à la place, ben, j'ai dépensé tout mon argent à équiper une maison avec des meubles et du matériel. Au fond de moi, j'ai toujours su que Dieu, c'est pas ça qu'il voulait. Puis, c'était un moyen pour moi d'échapper à la vie difficile que je menais après être partie de chez mon oncle, chez ma tante. Malgré tous les efforts que je faisais, je n'étais pas heureuse. Je continuais à travailler pour satisfaire mon chum. Mon chum, c'était devenu comme un idole. Puis le pire, c'est que là-dedans, je savais que Dieu, c'était un Dieu qui m'aimait tellement qu'il était jaloux. Parce qu'il m'attendait avec impatience, les bras ouverts. Moi et cet homme-là, ben, on avait un projet en commun, on voulait s'acheter une maison ensemble. La banque, elle nous a dit qu'il n'y aurait aucun problème. Puis, ben moi, je culpabilisais, je savais que c'était pas correct. Puis, à un moment donné, ben, on a reçu un appel de la banque qui nous a dit qu'on était refusé. Puis, à la place d'être triste, j'étais en paix. Je comprenais que c'est le Seigneur qui ne pouvait pas mon plan parce que c'était pas son plan, lui, c'était le mien. Cet événement-là m'a aidé à comprendre que c'était pas la volonté de Dieu ni la mienne au fond. J'ai non seulement compris, mais aussi admis que j'étais tombée dans le bas-fond, plus creux que ça, mais j'étais en enfer. J'ai dépensé mon argent dans les meubles, mais aussi dans la drogue, pour compenser ce qui manquait à ma vie. Que même si j'avais tout ce qui était matériel, une chose plus grande que n'importe laquelle manquait à ma vie. Ça, c'est la chose qui, si vous ne l'avez pas, c'est l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on est vide, on ne sert à rien. J'avançais sans avancer. J'accumulais sans rien gagner. Je savais que sans lui, je n'étais rien, puis j'avais aucune raison d'être. Puis surtout que même si j'avais toutes les richesses du monde, je serais une personne pauvre, seule, errant, sur un chemin qui ressemblerait à un labyrinthe. Dans le fond, je tournais en rond. Puis c'était à ce moment-là que je lui priais à genoux. Pour la première fois, sincèrement, je lui ai prié et supplié de me pardonner. Puis de prendre le contrôle de ma vie. Je me suis abandonnée à Dieu. Je lui ai aussi demandé de fermer mon cœur pour laisser cet homme-là. Puis merci Seigneur, tu m'as donné la force de le quitter. J'ai tellement dépensé mon argent pour le satisfaire que je suis retournée chez mes parents avec les mêmes vêtements que quand j'étais partie 4 ans passés. C'est drôle parce qu'une des premières lectures, j'ai ouvert ma Bible, puis une des premières lectures que j'ai lues, c'est dans Matthieu 6, 28. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, elles poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Le Seigneur, des fois, là, il nous montre des choses sainte dans sa parole qui vient de nous toucher. Je tiens à remercier mes parents qui, qui m'ont largement aidée. Sans me juger, mais juste en m'encourageant à revenir à l'Église. Merci, je vous aime. J'ai demandé pardon à Dieu, puis le Seigneur m'a répondu. Il a mis des sœurs, des frères sur mon chemin qui m'aident à grandir dans ma foi. Merci, Georgine, d'être un modèle pour moi. Et un soutien, Alain aussi. Je veux aussi remercier Sarah Dupuis, qui a été là avec moi dans mes pires moments, mais qui a surtout fait partie des meilleurs de ma vie. Je t'aime, la sœur. En plus, le Seigneur a mis en moi le désir de me nourrir de sa parole. Matthieu 4, 4. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Le désir de vouloir connaître Christ, qui est mort à la croix, qui est mort pour moi puis qui a porté ma croix. La joie de lire sa parole à tous les jours, puis le plaisir de la partager avec tous ceux que je rencontre, parce que quel plus beau cadeau qu'on peut donner, qu'on peut servir d'outil pour un si grand plan. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être baptisée, parce que je veux démontrer publiquement que je suis disciple de Jésus, puis que j'ai mis ma confiance en son sacrifice à la croix pour moi. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi et pour vous. C'est tout.
Bonjour, mon nom c'est Marisa Anne-Marie, je suis célibataire, je viens du Burundi, ça fait 20 ans que je suis au Canada, je suis le troisième de 11 enfants. Quand j'étais au Burundi, personne dans notre entourage ne disait d'aller à l'église, je ne connaissais presque rien au sujet de Jésus, bien que je l'entendais parler de lui, je ne m'y intéressais pas. Je n'ai pas eu l'occasion d'en entendre parler. Je ne savais pas qu'il offrait de transformer notre vie. Pour moi, la vie, c'était la famille, les études, l'emploi. Je ne pensais pas à Dieu, à Jésus, mais j'avais l'impression que quelque chose me manquait. En 1994, j'ai quitté le Burundi parce qu'il y avait des tueries, des problèmes. Je suis venue m'installer à Windsor avec une amie du Burundi. Des années sont passées, je pensais que je ne pouvais rien faire dans la vie. Je n'avais pas de travail, il m'était difficile de trouver un emploi. Je me sentais seule, j'avais parfois des amis. Mon amie avec laquelle j'habitais a déménagé à Ottawa. Je vivais seule dans un appartement parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. J'ai commencé à penser à Dieu. J'ai commencé à aller à l'église du coup pour aller prier Dieu. Cela me faisait du bien parce que j'entendais la parole de Dieu et cela me redonnait l'espoir dans la vie. Un jour, les témoins de Jéhovah sont venus chez moi. Ils m'ont parlé de Jéhovah. Ils m'ont invité à aller à l'église. Ils ne parlaient pas de Jésus, seulement de Jéhovah. Cela m'a encouragé un peu. Mais on ne parlait pas de Jésus, on ne parlait pas du pardon des péchés. Je n'ai rien dit, j'ai continué à les suivre, à faire les études avec eux, mais cela ne changeait rien à ma vie. Quelque chose me manquait toujours. J'ai quitté Windsor en 2012 pour venir habiter avec ma sœur Victoire. Victoire m'a parlé de sa foi et cela m'a encouragée. Et parler de Jésus, mais je n'avais pas encore confié ma vie à Jésus. Une de ses amies, Anne-Marie Montgomery, m'a invitée à faire une étude biblique avec Victoire. Pendant ces études, j'ai découvert la bonne nouvelle concernant Jésus, l'amour de Dieu, le pardon des péchés, le fait qu'on pouvait devenir enfant de Dieu. Cela m'a encouragé beaucoup. Pendant une des leçons, j'ai appris qu'il fallait confier ma vie à Jésus et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas encore fait. J'en ai parlé avec Victoire, qui m'a expliqué comment prier pour confier ma vie à Jésus, ce que j'ai fait. Quand j'ai prié en demandant à Jésus de devenir mon sauveur, j'ai ressenti une grande joie. Je savais que mes péchés étaient pardonnés et que j'étais enfant de Dieu. Depuis ce temps-là, je continue à approfondir ma relation avec Dieu. Je suis consciente de sa présence dans ma vie. J'ai commencé à prier beaucoup, plusieurs fois pendant la journée, et à lire la Bible. J'ai confiance en Dieu, en Jésus-Christ, qui m'aide dans la vie. J'ai des pensées positives face à la vie. Avant, je pensais à la mort et j'en avais peur, mais maintenant, je suis rassurée face à la mort, car je sais que Jésus m'a donné la vie éternelle avec lui. Je suis en recherche de travail et je prie en demandant à Dieu de pourvoir un travail. Et je crois que si je continue à chercher un emploi, Dieu m'aidera à en trouver un. Il me donne le courage de persévérer. Je participe à une communauté chrétienne. Lorsque je vais aux réunions, j'entends des bonnes choses qui m'encouragent, des enseignements de la Bible qui m'aident à grandir dans la foi, des temps de louange et d'adoration qui m'encouragent aussi parce qu'ils parlent de Jésus, qu'il est ressuscité avec nous, qui nous aime. Je fais aussi d'un petit groupe avec ma soeur que j'aime, ce que j'aime beaucoup aussi. Jésus a transformé ma vie en me pardonnant mes péchés. Il me donne confiance à la vie et en Dieu. Je vis avec ma soeur, on prie ensemble, ça m'encourage. Avec ses enfants, mon neveu, ma nièce, on vit dans la joie. Dieu est toujours avec moi. Je ne suis plus seule. J'ai de l'espoir à l'avenir, et un espoir alimenté par la prière et la lecture de la Bible. Je sais qu'il répond aux prières et j'apprends à prier pour tout ce qui m'inquiète. Le psaume 23 est l'un de mes passages préférés qui résume ce que Dieu fait dans ma vie. Cela m'encourage de savoir que Dieu est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il sauve mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu réduis ma tête, ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus a transformé ma vie en me pardonnant mes péchés. Il me donne confiance à la vie et en Dieu. Je vis avec ma sœur, on prie ensemble, ça m'encourage avec ses enfants. Mon neveu, ma nièce, on vit dans la joie. Dieu est toujours avec moi. Je ne suis plus seul. J'ai de l'espoir en l'avenir, un espoir alimenté par la prière et la lecture de la Bible. Je sais qu'il répond aux prières et j'apprends à prier pour tout ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, je me fais baptiser en obéissant au commandement de Dieu pour être témoin de son amour et sa fidélité envers ceux qui se tournent vers lui. La Bible le dit dans Matthieu 7 à 8. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et on trouve à celui qui frappe. Je remercie le Seigneur pour cette journée de mon baptême et de mon témoignage. J'aimerais remercier M. et Mme Robert et Anne-Marie Montgomery qui m'ont accompagné dans le cheminement des enseignements de l'étude biblique. Merci.
Merci Anne-Marie. Eh bien, j'aimerais inviter les placeurs à s'avancer pour un moment. On va prendre un temps d'offrande ensemble alors qu'on chante ce prochain chant qui est
Je suis le frère de Diane Blanchette. Je suis le plus vieux d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi ici à Gatineau. J'ai eu une enfance heureuse. Mes parents nous aimaient beaucoup, mais ils se sont séparés quand j'avais 10 ans. Mon père venait nous chercher tous les fins de semaine et nous passions l'été avec lui. Il a toujours été là pour nous et je suis reconnaissant envers lui. Encore aujourd'hui, il est toujours prêt à nous rendre service. Vers l'âge de 25 ans, j'ai rencontré une femme et nous avons vécu une dizaine d'années ensemble. J'ai eu deux beaux enfants avec elle, Sonia et qui a maintenant 24 ans et Bobby 20 ans. J'aime beaucoup mes enfants, ils sont importants pour moi. En 1994, je me suis séparé de la mère de mes enfants et parti vivre avec eux à Val-d'Or. J'étais très triste que mes enfants partent aussi loin. Je les voyais que deux fois par année. La séparation et la perte de mes enfants a été très dure pour moi. En 2001, après un party entre amis, j'ai décidé de rentrer à la maison à pied au lieu de prendre mon auto. En marchant sur le bord de la route, un auto est venu me frapper par en arrière. J'ai passé environ 8 heures dans le fossé avant que quelqu'un m'aperçoive. J'étais inconscient et gravement blessé. Ma jambe était fracturée à plusieurs endroits et j'ai eu le visage et l'oreille gauche très endommagées. J'ai passé plusieurs mois en physiothérapie pour réapprendre à marcher. Ce que je trouvais difficile, c'était d'être seul pour vivre cette épreuve. Je n'avais pas de conjointe et pas d'amis. Je ressentais un grand vide dans ma vie. Mon handicap physique m'empêche encore aujourd'hui d'avoir un emploi stable. Avant cet accident, j'étais vitrier. En 2003, j'ai déménagé dans un appartement à côté de celui de ma mère. Je la voyais à tous les jours et sa présence me faisait du bien. Je me sentais moins seul. Elle est malheureusement décédée d'un cancer du poumon il y a 7 ans. Après le départ de ma mère, je me suis construit une maison avec mon père. Ça m'a fait du bien d'avoir un projet devant moi. Mais quand que je me trouvais seul, j'étais triste d'avoir personne avec moi. En 2010, ma sœur Diane et son mari sont revenus de Sherbrooke pour vivre à Gatineau. Ils venaient ici à l'église. Ma sœur m'a invité à l'église Au début, je venais pour me faire des amis, malgré que j'aimais aussi les messages et la musique. Les gens étaient gentils avec moi. Daniel Gagnon m'a donné un CD de la Bible orale. Ça m'a aidé à comprendre que j'avais besoin d'un sauveur. À force d'entendre les messages et de lire ma Bible, j'ai compris que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. J'ai compris que j'étais pécheur et séparé de Dieu pour l'éternité. En 2013, j'ai prié que Jésus me pardonne de mes péchés et qu'il m'accepte comme son enfant. Je lui ai demandé de prendre ma vie en main. Actes 2, 28 dit que tu me feras connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Je sais maintenant que je vais aller au ciel quand je vais mourir. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, j'ai eu une paix et une joie que je n'avais pas avant. J'aime venir à l'Église et j'aime lire la parole de Dieu. Dieu m'a donné plein de nouveaux amis et j'aime beaucoup les activités pour les personnes seules. Dieu est bon avec moi et je veux lui dire merci. Ma vie n'est pas parfaite, mais Dieu me fait du bien à tous les jours. J'aimerais me faire baptiser pour être obéissant à Dieu qui demande à tous ses enfants de se faire baptiser comme qu'on lit dans Actes 2, 38. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Merci.
Merci, Denis. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Vous savez, beaucoup de personnes, après avoir vécu ce que notre frère Denis a vécu, un accident qui vient changer complètement notre vie, ces personnes-là vont sombrer dans le désespoir. Et vous savez, le monde autour de nous, qui ne croit pas que Dieu existe, que Dieu nous a créés, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il veut prendre soin de nous, n'ont pas beaucoup d'endroits vers lesquels se tourner quand la tragédie, la maladie, quand quelque chose comme ça arrive, à part le désespoir. Mais en Jésus, la Bible dit que nous avons une espérance, un espoir, parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est ça que les baptêmes symbolisent ce matin, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais j'aimerais juste qu'on puisse chanter ce prochain chant qui s'appelle « Je m'envolerai », qui nous parle de l'espérance que nous avons de voir Jésus un jour face à face. Un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Mais Jésus est déjà là dans nos vies aujourd'hui. Il est vivant parce qu'il est mort et ressuscité. Ça fait des milliers d'années, mais il est encore vivant, présent dans nos vies. Et on a encore la possibilité, aujourd'hui, ce matin, de se tourner vers lui pour trouver l'espoir.
S'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie, je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus, je fin de mon parcours, je m'envolerai. laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai, oubliant mes souffrances et mes peines.
Je suis veuve depuis maintenant 15 ans. Je suis née dans une famille catholique. Je suis la troisième d'une famille de 4 enfants. Nos parents nous envoyaient à l'église tous les dimanches pendant qu'ils restaient à la maison pour entendre les messages à la télévision. Quand j'étais jeune, j'étais très obéissante à mes parents et aux traditions qu'ils avaient. J'étais tellement gênée, pognée et obéissée à tout. Étant donné que mes parents n'allaient pas physiquement à l'église, moi, pendant les services du dimanche matin, je restais dans la cour d'école près de l'église. Les années ont passé, je suis devenue une adolescente et je remarquais un vide en moi. Je me sentais très seule, j'avais des idées noires, le péché régnait sur moi. À 13 ans, j'ai été victime de viol et je croyais à ce moment-là que c'était de ma faute. Un peu plus tard, je suis tombée dans la drogue. J'ai dû suivre une thérapie pour m'en sortir et cela fait maintenant 11 ans que je suis sobre. Pour ce qui est de l'alcool, c'était complètement impensable pour moi car j'avais été élevée dans une famille où l'alcool était un sérieux problème. Pourtant, j'ai fini par tomber dans cette dépendance vers l'âge de 43 ans. À 23 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie, Teklou Bekel, avec qui j'ai vécu la mort de notre premier enfant, qui s'était étouffé avec le cordon ombilical peu de temps avant sa naissance. J'ai aussi eu avec cet homme deux autres enfants, Michael Bégovreau et Tammy Bégovreau. Pour vous situer un peu, là, Michael, c'est le mari de Joka Mercier, puis Tammy, c'est... Elle aide les dimanches matins avec André Saint-Louis au premier service pour les parkings. Teklou était originaire de l'Éthiopie, l'Est de l'Afrique, ce qui explique le teint de mes enfants. Il était croyant et pratiquait à sa façon. À 38 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer du foie et il est décédé l'année suivante à l'âge de 39 ans. Je me suis donc retrouvée seule avec les enfants du côté financier et je maudissais le Seigneur pour toute la misère à laquelle je pouvais faire face. Peu de temps après, j'ai commencé à voir et entendre des choses. Ce n'est qu'après plusieurs hospitalisations que les médecins m'ont diagnostiqué en tant que schizophrène et bipolaire. Il faut maintenant que je prenne beaucoup de médicaments et plus d'une injection à toutes les 3 semaines pour me garder stable. Aujourd'hui, je me bats pour le rester sobre de la boisson. Le cours Saint et Sauf, qui se donne ici même à l'Église, m'a beaucoup aidé à cause des principes bibliques et qui sont enseignés selon lesquels Jésus nous délivre de nos dépendances et notre esclavage. Je remercie beaucoup Kathleen et Monique qui donnent le cours. C'est vraiment spécial qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir. Je me souviens un jour, Michael m'a demandé d'aller avec lui à l'église, mais je lui ai dit non. Je croyais qu'il était fou parce qu'au début, Michael, je me souviens un soir entre autres, j'avais été au magasin pour chercher la bière puis il me disait non. Puis à un moment donné, il dit, je veux te sauver. Puis il s'était mis à pleurer. Puis je disais, mon Dieu, il est rendu bien trop avancé, lui. Il est fou, ça n'a pas d'allure. À l'église, il avait beaucoup changé, par exemple. Il était différent et il persistait même à m'inviter à l'église et j'ai fini par y aller. Je suis retournée plusieurs fois par la suite, mais très souvent, je tombais endormie dans le sofa à l'arrière durant les prédications. pas que Norman n'était pas intéressant, mais je ne me sentais pas vraiment interpellée. Sinon, j'étais vraiment éblouie par l'amour de Georgine qui en faisait beaucoup pour moi, en nous donnant de la nourriture et en priant pour notre famille. Sans parler de François et de Lise Lalonde, qui étaient tout autant exceptionnels. Eux aussi priaient pour notre famille. J'étais tellement surprise que des personnes prenaient le temps de prier pour moi alors qu'ils me connaissaient à peine. Je continuais d'aller à l'église, bien que je n'avais pas encore compris l'Évangile qui dit qu'à cause de mes péchés, je suis séparé de Dieu. Ce n'est qu'à force de venir à l'église que j'ai fini par comprendre que Jésus était venu mourir sur la croix pour mes péchés. Colossiens 3, 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » C'est à ce moment-là, vers mes 48 ans, que je me suis repenti devant Dieu avec l'aide de mon fils Michael et j'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ. Excusez-moi. Aujourd'hui, je me sens bien lorsque je suis à l'église. Je sais que je suis entouré de bonnes personnes qui aiment le Seigneur. Maintenant, je ressens plus le vide intérieur. Je ne me sens plus seule. Je n'ai plus d'idées noires. Je suis en paix. Je désire me faire baptiser car je crois en Jésus parce que je veux obéir à ses commandements dans Matthieu 28, 19 qui dit « Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » J'aimerais terminer avec un verset que j'aime bien, qui se trouve dans Éphésiens 2, versets 8-9. En effet, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. Merci, bonne journée.
Si vous vous endormez, ne ronflez pas. Ça me fait penser à ce monsieur qui prêchait en avant, un prédicateur, puis à un moment donné, il voit un monsieur qui dormait, là, puis ça paraissait, là, puis là, il ronflait, tout ça. Là, il arrête sa prédication, il descend, il va voir la madame, il dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, il dit, réveillez-le, il dort. Elle dit, écoute, elle dit, c'est toi qui l'as endormi, c'est à toi de le réveiller. Une des choses qu'on remarque des gens qui viennent de découvrir Jésus-Christ dans leur vie, c'est vraiment ce désir de pouvoir partager cette nouvelle-là. C'est immanquable. Il y a une raison pour ça. C'est une belle découverte. Et ça me fait penser à ce touriste, ce visiteur qui était allé en Israël, justement, qui visitait Israël. Quand tu visites Israël, je suis allé il y a plusieurs années en Israël, et puis tu as deux extrêmes en Israël. Tu as la ville très moderne qui est Tel Aviv, c'est archi-moderne, c'est tout à fait beau, tu as des hôtels de 5 étoiles, mais à quelques minutes à peine, tu vas te retrouver en plein milieu du désert. Et là, quand tu vas être dans le désert, tu vas croiser des Bédouins. Puis, il y avait un monsieur justement qui était un touriste, qui était croyant, visite Israël, s'en va dans le désert et croit justement un Bédouin. Puis il commence à lui parler de sa foi, commence à lui parler de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus avait fait dans sa vie, comment ça avait transformé sa vie. À un moment donné, le Bédouin lui dit, le regarde et lui dit, « Ah! » Il dit, « Je vois que vous vous empêchez de commettre le péché du désert. » Alors, le touriste ne comprenait pas. Il dit, « Le péché du désert? » Il dit, « Oui, il dit, le péché du silence. » Il dit, « Voyez-vous, dans le désert, lorsqu'une personne découvre de l'eau et le cache aux autres, il commet le péché du désert, le péché du silence. » Et c'est une belle illustration pour décrire cette relation qu'on peut avoir avec Jésus-Christ. Découvrir de l'eau. Mais il s'agit d'une eau différente, c'est une eau spirituelle. C'est une eau qui réussit à étancher la soif que nous avons tous dans notre cœur. Indépendamment de notre vie, que votre vie aille bien, que vous avez du succès, que vous avez un bon mariage et tout ça, nous avons été créés à l'image de Dieu, et de ce fait, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés, d'abord et avant tout, pour adorer Dieu. Mais voyez-vous, les préoccupations de la vie et tout ça, et la culture et tout ça, nous, a tendance à nous éloigner de Dieu, à ne pas faire connaître Dieu. Et c'est la raison qui explique ce vide qu'il y a dans le fond de notre cœur. Parfois, on en est conscient, parfois, on ne l'est pas. J'étais vraiment surpris d'entendre l'an passé, cette entrevue accordée par Howard Stern et David Letterman dans The Tonight Show. Howard Stern, je ne sais pas si vous connaissez, il a une émission, il est très, très populaire à New York. Il a son émission qui est diffusée à travers tous les États-Unis, qui s'appelle The Howard Stern Show, écoutée par plus de 20 millions de personnes, cote d'écoute phénoménale, multimillionnaire, c'est une vedette, la gloire. Et il a même accepté une autre émission. Et vous l'avez probablement vu, c'est traduit en français. En anglais, ça s'appelle America's Got Talent. En français, c'est du talent à revendre, je pense. Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle, l'émission. C'est un des juges, le gars avec les cheveux frisés, long, il s'appelle Howard Stern. Et Howard Stern a passé en entrevue justement un soir à The Tonight Show. Alors, il a rencontré David Letterman. Puis David Letterman lui a demandé, ça faisait un petit bout de temps qu'il ne l'avait pas vu, alors il lui a demandé comment ça va. Et la réponse a été très étrange. Howard Stern a répondu, alors il faut comprendre, le gars est multimillionnaire, il a une très belle épouse, ça va bien dans son mariage, tout va bien, la gloire, la santé, l'argent, tout ce que tu peux espérer dans la vie, il a tout. Et pourtant, il a dit ceci, il dit, sais-tu, il dit, ça va pas pire. Alors David Letterman lui a demandé, il dit, ça va pas pire, tu sais, quand tu as un gars multimillionnaire qui a absolument tout, qui dit, ça va pas pire. Puis il y a tout, là, il y a la santé et tout, il n'y a absolument aucun problème. Pas d'épreuve dans sa vie, là, ça va super bien. Tu es au top, tu es en haut du Mont Everest. Tu ne peux pas aller plus haut. Là. Et il te dit, ça ne va pas pire. Bien là, tu te dis, ouais, là, ça ne va pas bien pour nous autres, pour le reste de nous autres. Hein? Non, mais je ne sais pas, si tu es rendu en haut, tu es en haut du sommet, puis en haut du sommet, tu n'es juste pas pire. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il a dit. Il a continué, puis il dit, ça ne va pas pire. Il dit, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait. Il dit, moi, ça fait des années que je veux voir le psychologue. Des années que je vais voir le psychologue parce que moi, j'ai un vide
dans mon cœur. Il y a un trou noir. C'est comme ça qu'il a dit. Il dit, j'ai un trou noir, sombre, dans le fond de mon cœur, et je ne comprends pas pourquoi. Ça fait des années que j'essaie de comprendre. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a un vide dans mon cœur. J'essaie de le combler. D'ailleurs, j'ai accepté. Il dit, je suis super occupé. Il dit, je fais des annonces à la télévision. J'ai mon émission de radio. Je suis hyper occupé et j'ai accepté ce nouveau défi de devenir un juge à l'émission America's Got Talent. Et la seule raison que j'ai accepté, j'ai même pas le temps, David, de faire ça. J'ai même pas le temps. La seule raison pourquoi j'ai accepté cette nouvelle émission-là, c'était parce que j'espérais qu'en ayant plus d'applaudissements, plus de gloire, que ça comblerait peut-être ce vide que j'ai dans mon cœur. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Imagine une personne qui a absolument tout, très consciente que l'argent, le succès, la réussite, un beau mariage, tout, la gloire, la santé, très conscient que tout ça, que tout ce que le monde peut t'offrir n'est pas suffisant pour combler un vide, une soif qui est dans le fond de ton cœur. D'autres personnes ne sont pas conscientes, espèrent avoir plus d'argent, plus une meilleure carrière ou avoir une relation avec un homme ou avec une femme, que le mariage va apporter ça, va combler ça, sans réaliser que derrière tout ça, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et de ce fait, parce que nous avons été créés pour Dieu, premièrement, d'abord et avant tout, que la seule façon de combler ce vide-là du fond de notre cœur, cette soif-là qui est là, c'est en ayant une relation personnelle avec Jésus. C'est le message que Jésus va laisser à une femme qu'il va rencontrer un jour sur le bord d'un puits. Voyez-vous, Jésus est un juif, il est élevé dans la communauté juive, il va faire la rencontre d'une femme samaritaine sur le bord d'un puits. Voici une femme qui s'en va à un puits pour puiser de l'eau. Elle y va à midi. Elle s'en va prendre de l'eau dans ce puits-là. Et Jésus arrive à côté et lui demande de l'eau. Elle est tout à fait surprise. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi toi tu me parles, tu es un juif. Parce que voyez-vous, les juifs et les samaritains n'avaient pas une bonne relation les uns avec les autres. Il y avait de la tension entre ces deux groupes. Elle ne comprend pas et pourtant Jésus va lui répondre quelque chose de tout à fait phénoménal. Il va y répondre ceci qu'on peut voir dans Jean chapitre 4. Et j'aimerais vous lire un passage dans Jean chapitre 4 qui raconte justement cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine. Une Samaritaine qui avait eu plusieurs maris, qui avait essayé d'être heureuse dans sa vie. Alors c'est à l'autre opposé d'Howard Stern, alors qu'Howard Stern a absolument tout et réalise qu'il lui manque quelque chose. Mais cette femme a passé sa vie avec plusieurs maris, un après l'autre, rendu à son cinquième homme dans sa vie, et pas encore, il manque toujours quelque chose. On le voit par sa décision d'aller à midi prendre de l'eau, alors que ce n'était pas normal. Les femmes allaient très tôt le matin à cause de la chaleur et tout ça, si intense, du Moyen-Orient. Alors on voit qu'elle cachait, elle ne voulait pas avoir de relation avec les autres, elle n'allait pas avec les femmes très tôt le matin, mais elle avait choisi d'y aller tout seule à l'heure du midi. Alors on voit que cette femme se cache, il y a comme une sorte de honte qui est là, une gêne. Elle veut être seule. Socialement, elle a de la difficulté. Et on voit qu'elle a eu beaucoup de souffrance pendant toute sa vie. Quand tu es rendu à ton cinquième homme dans ta vie, on voit que ça n'a pas été super. Alors ici, tu as les deux exemples, deux extrêmes, les deux pôles extrêmes. Howard Stern, qui est multimillionnaire, qui a tout, qui dit qu'il manque quelque chose. Et cette femme qui a passé sa vie dans la souffrance et qui n'est pas bien. Et Jésus, dans le fond, est la réponse et il va lui dire. On prend la lecture dans Jean chapitre 4, verset 10. Alors, je vous ai décrit ce qui s'est passé juste avant. Jésus est là, lui a demandé à boire. Et Jésus va répondre à cette femme qui vient et qui ne comprend pas pourquoi ce Juif parle à cette femme qui est samaritaine. Alors Jésus va répondre au verset 10, il dit, « Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit cette femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de cette eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je poursuis la lecture plus loin, au verset 25, qui dit ceci. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, qui veut dire sauveur, doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, celui qui te parle. » Alors Jésus lui offre cette eau vive, cette eau spirituelle qui calme cette foi, cette soif du fond de notre âme. Et Jésus lui dit, « Si seulement tu savais le cadeau de Dieu, le don de Dieu, qui est en fait moi, qui est celui qui te parle, il est évident, même de plus en plus, il va s'identifier, je suis la réponse, c'est moi qui va étancher la soif de ton cœur. Si seulement tu savais, le mot « savoir », chaque fois qu'il est employé, est utilisé dans la Bible, ça veut dire « comprendre ». Si seulement tu pouvais comprendre que je suis le don et le cadeau de Dieu. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Premièrement, que c'est une grâce. On parle de cadeau, on parle d'un don. On parle d'un don ici, un cadeau, ça ne s'achète pas. On n'a pas à faire des œuvres et essayer de se mériter ce cadeau-là. Mais non, sans ça, c'est à peu près comme si tu arrives à Noël, puis c'est le temps de Noël, puis tu dis à ton enfant, à ton fils, à ta petite-fille, tu regardes ta petite-fille, tu dis, regarde, c'est une poupée, j'aimerais te donner un cadeau, ça va te coûter 20 $. Ce n'est plus un cadeau, là. Et Dieu est là et nous fait ce cadeau, nous fait un don. Et nous apprenons par le reste des Écritures que le don, c'est quoi? Le don, c'est lorsque Jésus est allé à la croix et s'est offert sur la croix pour prendre sur lui la culpabilité que l'on avait envers Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu est trois fois saint. Et nous avons tassé Dieu, nous avons mis Dieu dans le coffre en arrière, nous n'avons rien voulu savoir de Dieu. Et nous avons fait un affront à Dieu, nous avons péché. Et à cause de cela, il y a un mur qui nous sépare avec Dieu. Et Jésus vient sur terre et se lie volontairement à la croix. Il s'offre en sacrifice pour prendre sur lui le péché du monde entier. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, « Oui, Seigneur, je crois à cela. » Et ça, c'est le pas de foi que toi, tu as à faire. C'est de recevoir le cadeau que Dieu t'offre. C'est pour ça, avez-vous vu que Jésus lui offre cette eau? Mais il faut qu'elle la prenne. Il faut qu'elle dise, « Je veux cette eau. » C'est pour ça que Jésus dit, si tu savais, si tu comprenais quel est le don qui t'est offert présentement de la vie éternelle, toi-même, tu m'aurais demandé cette eau-là. Et ça t'appartient. Tu as une décision à prendre avec Dieu. Je veux dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Je veux avoir cette eau de la vie éternelle. C'est de reconnaître que Jésus est allé à la croix pour toi, humblement et simplement. Pas plus compliqué, c'est une grâce. Éphésiens 2 dit d'ailleurs, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? De la conséquence de notre péché, de cette séparation d'avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ, son sacrifice à la croix. Alors, c'est ce que ça veut dire, sauver, justifier, réconcilier. On devient un enfant de Dieu. Alors, Éphésiens dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, que nous avons cette relation privilégiée avec Dieu, que nous avons la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce, une faveur non méritée. C'est un don que Dieu nous offre ce matin, simplement. Et tu as juste besoin de dire oui, Seigneur. Je veux cette eau-là. Comme ceux qui sont venus en avant, en fond, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, j'avais soif, et Dieu est venu combler, Jésus-Christ est venu combler, étancher cette soif-là dans mon cœur. Deuxièmement, ce cadeau de Dieu est la satisfaction ultime. On voit vraiment un changement dans l'attitude de cette femme. Tout d'abord, elle vient en secret au puits. On voit qu'il y a des problèmes, là. On voit qu'elle a beaucoup souffert à travers sa vie. Et pourtant, lorsqu'elle commence à comprendre, elle voit que Jésus est la vérité, parce que Jésus va lui révéler sa vie privée. Et là, elle reconnaît, elle voit qu'il est un prophète, qu'il sait des choses que personne ne sait, qu'elle cache. Et là, tout d'un coup, elle est touchée par la puissance, par Jésus-Christ. Elle commence à découvrir et à comprendre qui il est le Messie. D'ailleurs, Jésus vient de lui dire, c'est moi le Messie, tant attendu. Des centaines de versets, des centaines de prophéties qui avaient été données, des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Et là, Jésus dit, c'est moi. Toutes les prophéties qui parlaient de moi, qui parlaient dans l'Ancien Testament, du Sauveur qui devait venir, c'est moi. imaginez. Alors, cette femme laisse le seau là, un petit peu impoli dans le fond. Elle laisse tout ça là, elle part à courir, elle quitte Jésus, puis elle s'en va à son village, puis elle commence à raconter à tous les gens de son village. Elle dit, voici un homme, puis là, elle n'est plus gênée, il n'y a plus de gêne, au contraire, on sent une excitation, une joie qui est là, et elle est très ouverte. On voit même son humilité à reconnaître ses fautes. Elle dit, il sait tout ce que j'ai fait et la gêne est disparue. Et ça, c'est un des signes qu'on voit lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Une des choses, on va se reconnaître pécheur. On va reconnaître qui on est vraiment et ce qu'on a fait avec Dieu. Il y a cette humilité, cette repentance. Et là, on la voit chez elle, cette attitude, alors qu'elle est très ouverte. Elle qui se cachait, qui est allée à midi pour ne pas voir personne, maintenant, elle va en plein centre-ville, parle à tout le monde. Elle dit, venez voir Jésus. Il me dit qu'est-ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie, c'est le Sauveur? Elle invite les autres, maintenant, à aller voir Jésus-Christ. C'est un peu ce qui arrive lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ. Tu veux partager aux autres cette bonne nouvelle, tout ce que tu as découvert, puis tu invites les gens autour à venir voir Jésus, apprendre à le découvrir. Et voilà que le vide qu'il y avait dans son cœur, qu'elle avait essayé de combler par des mariages, par des relations avec des hommes, ça ne réussissait pas, ça ne marchait pas. Vous voyez, il y a bien des gens qui vont essayer de prendre le seau de leur âme et le tremper dans toutes sortes de choses, aller chercher de l'espoir, de la joie, le bonheur, dans toutes sortes de choses. Ça peut être le mariage, ça peut être l'argent, tout ça. Mais comme l'exemple d'Howard Stern, qu'est-ce qui arrive quand tu as tout? Nous, on peut toujours dire, bien, je vais travailler plus fort pour essayer d'avoir plus d'argent, puis peut-être Voici un homme qui a absolument tout, puis il dit, moi j'ai un vide dans mon cœur, je ne comprends pas pourquoi, ça fait des années que je vais chez les psychologues, je ne comprends pas encore, j'ai un vide. T'es encore là? Malgré mes millions, malgré ma bonne famille, les enfants, la famille, la femme, ça ne marche pas. Pourquoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le seul qui peut combler ce vide dans notre cœur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu ne veux pas faire au moins ce petit pas-là? Peut-être que tu ne comprends pas toute l'affaire, peut-être que tu as des hésitations et tout ça, puis c'est correct, ça. Mais au moins ce matin, moi, la seule invitation que je t'envoie, c'est ceci. Humblement devant Dieu, tu peux dire ceci, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Et tu vas voir ce que Jésus peut faire. Comment Jésus peut venir dans ta vie te rencontrer là où tu es, avec tes doutes, là où tu es. Cette femme ne comprenait pas tout de Jésus-Christ qui il était. Elle a appris à le découvrir. Elle a commencé, c'était le premier jour, c'est le jour 1. Mais c'est la même chose avec toi. En ouvrant ton cœur, humblement disant à Jésus, Seigneur, peut-être que ce matin tu es en train de m'appeler pour avoir une relation avec moi. Donne-moi cette eau-là. Et tu vas voir ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Seigneur notre Dieu, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions tout d'abord pour ce que tu as fait dans la vie de ceux qui sont venus ce matin, partager leur témoignage et comment tu les as rencontrés, où ils étaient. Nous te prions pour chaque personne ici ce matin. Viens nous rencontrer, touche notre cœur, appelle-nous. Que personne ne sorte ici, Seigneur, sans t'avoir rencontré. On te demande ces choses au nom de Jésus et en te donnant gloire pour ce que tu fais dans nos vies. Amen.
Bonjour. Alors, pour ceux pour qui c'est la première fois que vous assistez à un baptême, je veux juste vous expliquer là, qu'est-ce qui va arriver. On a Boniface dans l'eau. C'est la première chose qui arrive. Lui, il est là pour caler les gens là, en dessous de l'eau. Non, mais il ne les cale pas. Mais nous, ici, à l'église de Sentier, on fait ce qu'on appelle le baptême par immersion. Puis les gens vont aller dans le baptistère. L'eau est chaude, inquiétez-vous pas, là, tout va bien pour ce côté-là. Puis les gens vont être mis complètement sous l'eau, puis ramenés en dehors de l'eau. Puis on tient à faire un baptême par immersion pour symboliser qu'est-ce qui est arrivé au Seigneur Jésus lui-même. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est mort à la croix, qu'il a été enseveli dans un tombeau, et trois jours après, il est revenu à la vie, il est ressuscité d'entre les morts. Puis c'est ça que l'immersion complète de la personne dans l'eau symbolise. Quand la personne est mise sous l'eau complètement, ça représente la mort et l'ensevelissement dans un tombeau. Puis lorsqu'elle elle sort de l'eau, c'est un symbole de la résurrection ou de revenir à la vie. Puis la Bible nous dit que nous sommes morts en Jésus-Christ, nous sommes revenus à la vie avec Jésus-Christ et que nous sommes maintenant vivants en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez, nous aussi, on ne croit pas que le baptême sauve ou rachète quelqu'un. On ne croit pas que c'est en se faisant baptiser dans l'eau par immersion qu'une personne peut avoir les péchés pardonnés. On l'a chanté tantôt. C'est le sang de Jésus qui nous pardonne de tous nos péchés. C'est seulement par son sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection. Et c'est ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, leur foi en lui, qui peuvent avoir leurs péchés pardonnés et vivre une nouvelle vie avec Jésus. Puis le baptême d'eau, ce que c'est un symbole de ce qui est déjà arrivé à l'intérieur des personnes. Ça symbolise ce qui s'est déjà produit spirituellement. Ils étaient morts spirituellement, mais ils sont revenus à la vie spirituellement en Jésus-Christ. Et le baptême, c'est le symbole de tout ça. C'est pour, ça sert aussi pour les gens. C'est une manière de s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, c'est un geste extérieur qui représente une réalité intérieure qui s'est passée dans le cœur de ces gens-là.
Ça va bien, Denis?
Oui.
Oui, bon, on est là, c'est le grand jour. Alors, j'ai bien aimé ton témoignage ce matin où tu nous as raconté une portion de ta vie. Mais sais-tu, lorsque tu étais dans le fossé, le jour, là, tu as passé, tu as dit 8 heures dans le fossé.
Oui.
Sais-tu, Dieu était avec toi.
Oui.
Même si personne n'était là pour te voir, Dieu était avec toi. Et il sait où tu seras même aujourd'hui.
Oui.
Son plan pour toi est parfait. Et comme son plan pour nous tous est parfait. Alors, j'ai quelques questions à te poser.
Oui.
Fais attention à la réponse. Denis, est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ?
Oui.
Est-ce que tu penses que Jésus t'a pardonné tous tes péchés?
Oui.
Tu crois que si tu meurs aujourd'hui, tu seras avec Jésus au ciel?
Oui.
T'en es sûr?
Oui.
À cause de ta confession de foi, à cause de ce que tu viens d'affirmer publiquement, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très agréable dans l'eau, là. Vous pouvez venir l'essayer après. Alors, Rachel, ça va bien?
Oui.
Bon. Alors, on était très encouragés, édifiés par ton témoignage ce matin. Et la façon dont tu as parlé de ta vie, de tes enfants et tout ça. Michael et Tania qui sont ici ce matin, c'est vraiment impressionnant. On fait des enfants, Dieu nous donne la force de les nourrir, de leur donner le sein et tout ça, et quand ils grandissent. Mais Dieu peut utiliser ces mêmes enfants pour nous enseigner. Et c'est le cas dans ta vie. Et c'est différent pour chacun d'entre nous ici. Et je suis vraiment heureux que tu aies partagé ce matin que ce n'est pas Michael ni aucune autre personne dans cette vie qui t'a apporté le salut. Mais Dieu peut nous utiliser chacun où nous sommes pour sauver ceux qui l'attirent à lui. Mm-hmm. Alors, j'ai quelques questions pour toi. J'espère que tu n'as pas entendu ce que j'ai demandé à Denis. Hein? OK, mais j'ai des questions pour toi. Rachel, est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ?
Oui.
Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel?
Oui.
Est-ce que tu crois que Jésus, à cause de sa mort sur la croix, t'as pardonné tous tes péchés? Ah. Une bonne farceuse, hein? Est-ce que tu crois que si aujourd'hui, en sortant de cette eau, je ne sais pas si tu vas sortir, mais en sortant de cette eau, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus va t'apporter, t'amener chez lui au ciel, dans son paradis?
Oui.
À cause de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Eh bien, je vous invite à vous lever. On veut continuer à célébrer avec Denis et Rachel. On veut louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire aussi dans leur vie. Je vous invite aussi à prier pour eux, hein, parce que de faire ce pas-là ce matin, de publiquement témoigner de leur foi et de s'identifier à la mort, à la résurrection de Jésus par les eaux du baptême. Avec des adultes, j'aimerais juste vous dire qu'est-ce qui va arriver. On a André puis Roxane qui sont déjà dans le baptistère ce matin. Puis dans le fond, le baptême d'eau, ce que c'est, on tient à ce que, ici à l'église de Sentier, à faire un geste, comme le Seigneur Jésus nous l'a demandé, qui imite ce qui est arrivé au Seigneur Jésus lorsqu'il est mort à la croix, qu'il a été enseveli dans un tombeau et qu'il est revenu à la vie, ressuscité 3 jours après. Donc le baptême d'eau par immersion, c'est ce que ça symbolise. Roxane, qui va se faire baptiser, va être plongée sous l'eau complètement, immergée sous l'eau pour représenter la mort et l'ensevelissement du Seigneur. Elle va ressortir de l'eau pour symboliser la résurrection du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que nous nous faisons baptiser pour témoigner publiquement de notre foi et parce que c'est une manière de s'identifier à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas le baptême qui sauve. Roxane a déjà été sauvée par la mort de Jésus sur la croix, par son sacrifice et sa résurrection sur la croix et le fait qu'elle a placé sa foi en lui, mais elle va se faire baptiser pour s'identifier à ce qui est déjà arrivé spirituellement dans sa vie.
Bien, Roxane, j'ai aimé ton témoignage et j'ai aimé le fait que tu parlais dès ta jeunesse, tu avais déjà entendu des histoires de Jésus et de la Bible. Et tu savais c'était quoi le chemin droit à suivre. Mais malgré cela, tu t'es détourné à cause de l'amour envers ce monsieur.
Ouais.
Et quand tu es revenu, tu as dit l'image que j'ai vraiment trouvée formidable, c'est que Jésus était là et il t'attendait les bras ouverts.
Ouais.
Quelle belle image. Et cela me fait dire que s'il a fait cela pour toi, il peut faire la même chose pour n'importe qui ici qui met leur confiance en Jésus-Christ.
Ouais.
Les attend avec les bras ouverts.
Mm-hmm.
Donc, Roxane, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est venu sur cette terre pleinement homme et pleinement Dieu?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés?
Oui.
Est-ce que tu as mis ta pleine confiance en Jésus-Christ?
Oui.
C'était vite. Eh bien, c'est ta confession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, vous n'avez pas rencontré Jeannette ce matin. Jeannette Rochon, je vous la présente. Et Jeannette a vécu quand même une vie difficile dans sa jeunesse. Elle a eu deux accidents d'auto et à travers cela, elle a perdu une jambe. Donc, elle a une jambe en bois, donc la difficulté qu'elle a à marcher. Et malgré tout cela, elle a accepté, malgré ses difficultés, la vie difficile, les mois en convalescence à l'hôpital, elle avait toujours cette foi en Jésus-Christ et en Dieu, et elle est venue à la connaissance de Jésus-Christ. Et maintenant, elle veut se faire baptiser. Donc, Jeannette, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés?
Oui.
Est-ce que tu l'as accepté, tu as mis ta pleine confiance en Jésus-Christ?
Oui.
Donc, c'est ta profession de foi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est beau, hein? Dieu touche les cœurs à n'importe quel âge. Moi, j'ai eu le privilège de baptiser ma mère. Elle avait 82 ans. C'est incroyable, hein? Marie?
Oui, ça va.
Pas trop nerveuse?
Oui, un peu.
Le jour est arrivé finalement.
Oui.
Anne-Marie, tu as témoigné dans ton témoignage du Burundi où il y avait de la tuerie, de la guerre. Tu as parti de là, tu es venu au Canada pour trouver une meilleure vie, mais je suis certain que tu ne pensais pas aussi de trouver une vie éternelle avec Jésus-Christ.
Oui.
Et tu as mentionné que ta sœur Victoire a été une personne qui a vraiment aidé avec les Montgomery à comprendre l'Évangile et à comprendre que tu avais besoin d'un sauveur.
Oui.
Et tu as accepté cette grâce que Dieu t'a faite.
Oui.
De mourir pour toi. Oui. Anne-Marie, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés?
Oui.
Est-ce que tu as mis ta pleine confiance en Jésus-Christ pour tes péchés?
Oui.
C'est ta profession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui.